Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants, Pivot et Urbania. Au programme, le bois, or brun des populations réfugiées d'Ouganda. Quoi faire avec ces 5 aliments qu'on oublie toujours et qui finissent dans le compost? Et le duo inflation et mondialisation pourrait causer des famines. Bonne écoute!
Le bois, or brun des populations réfugiées d'Ouganda. Un texte de Roméo Mokafiko, paru le 18 avril 2022 dans le magazine Pivot. Dans les camps, le bois est une ressource vitale pour les centaines de milliers de réfugiés installés dans la région. Sa récolte est aussi la principale cause de déforestation du pays. L'arrivée massive de réfugiés en Ouganda exerce depuis quelques années une forte pression sur les forêts du pays. Les centaines de milliers de personnes installées dans la région du Nil occidental depuis le début de la crise du Sud-Soudan voisin peinent à trouver du bois et les trafics et rivalités communautaires s'y sont multipliés. Pour contrer cette crise du bois, les opérations de reforestation s'intensifient. Il fait 30 degrés Celsius ce matin dans le camp de réfugiés de Rino, dans le nord-ouest de l'Ouganda, petit pays enclavé d'Afrique de l'Est. Monica Sadia enfile ses sandales pour se rendre à son lieu de travail du jour. Cette réfugiée sud-soudanaise a fui en 2017 la crise civile et alimentaire qui sévit dans son pays d'origine et demeure désormais dans l'un des nombreux camps ougandais qui rassemble plus d'un million de personnes. Elle vit grâce à la revente de bois qu'elle récupère sur les terrains les plus proches de la parcelle qu'on lui a attribuée à son arrivée. Comme de nombreuses autres femmes, Monica fera ce trajet une dizaine de fois cette semaine. Ressources vitales. Dans les camps, le bois est une ressource vitale pour les centaines de milliers de réfugiés installés dans la région. La population, en très grande majorité sud-soudanaise, l'emploie quotidiennement pour effectuer des travaux de construction, cuire la nourriture et se réchauffer. Sa récolte est la principale cause de déforestation du pays, d'après l'Autorité forestière nationale de l'Ouganda, NFA, qui estime que la couverture arborée a diminué de 60 % au cours des 5 dernières années. Grace Tomalo ramasse également du bois depuis son arrivée il y a 5 ans. « Il faut aller de plus en plus loin pour en trouver », explique-t-elle. Cela devient si compliqué que l'on doit parfois offrir aux propriétaires des terrains de récolte une partie de la nourriture que l'on reçoit pour obtenir le droit de ramasser. Pourtant, d'après Innocent Amadil, le chef des lotissements Ariwa du camp de Rino, la récolte de bois dans la région est gratuite et les populations réfugiées obtiennent quasi automatiquement le droit de ramassage nécessaire à la pratique. On offre une parcelle de terre à tous les ménages à leur arrivée où ils peuvent ramasser et planter autant qu'ils le souhaitent. Pour ce référent officiel, la situation est aujourd'hui devenue critique, et ce malgré les recommandations des autorités. En effet, une réfugié consomme en moyenne 20 arbres par an en Ouganda, selon une estimation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le gouvernement local recommande que l'on plante 5 nouveaux arbres pour chaque coupe. Nous avons une pénurie de bois, et ce même si la police vérifie que seules les personnes autorisées travaillent dans le secteur, explique M. Amadil. Quand on considère le climat de la région, notre environnement, on ne peut pas juste couper un arbre comme ça. En 1990, la couverture forestière était estimée à 24 % de la superficie totale des terres. Ce pourcentage a chuté à 12,4 % en 2015, et se situe autour des 9 % ces dernières années. En conséquence, plus de 8 personnes sur 10 interrogées en 2019 par une équipe de chercheurs mandatée par l'organisme World Agroforestry ont dit percevoir une dégradation de leur environnement. Tensions entre réfugiés et communautés d'accueil. Pour Patrick, qui reconnaît à demi-mot ne pas avoir obtenu l'autorisation pour récolter autour des camps, la situation crée des rivalités entre les réfugiés et les populations d'accueil. Il y a des tensions pour le ramassage de bois, confie cet Ougandais venu de la ville d'Arua, située à 2 heures de route. Parfois, les réfugiés viennent aussi sur nos terres et volent notre bois. Une situation qui fait écho à un rapport émis en juin 2019, dans lequel la Banque mondiale et les Nations unies alertaient déjà sur ce risque dans la région. Citation : La concurrence pour les ressources disponibles pourrait devenir une source de conflit entre les réfugiés et les communautés d'accueil. Fin de citation. Contrairement aux réfugiés voisins, qui rapportent le bois à bout de bras dans leur lotissement pour le revendre entre 200 et 500 shillings, 7 et 20 cents, Patrick récolte une fois par semaine à l'aide d'un camion. Tu ne peux pas prendre du bois n'importe où, mais tu peux toujours trouver un moyen de payer l'accès à un terrain si tu le veux, confie-t-il. Il se rend ensuite en ville, où il passe la cargaison à des grossistes qui se chargent de la revente au détail. Je rappelle que nous lisons « Le bois, or brun des populations réfugiées d'Ouganda », un texte de Roméo Mocafico, paru le 18 avril 2022 dans le magazine Pivot. Pour lutter contre la déforestation qui sévit dans la région, les autorités ont mis en place un programme de reboisement en collaboration avec des ONG et des producteurs locaux. Le directeur du développement des plantations de la NFA, Stuart Maniragua, a notamment fait la promotion de l'agroforesterie, la culture d'arbres et de cultures ensemble sur la même terre, et annoncé l'objectif d'une dizaine de millions d'arbres plantés dans les années à venir. C'est grâce à ces nouvelles mesures, décidées par différents décrets à partir de 2013, que Alisaba Onis, fondatrice de la pépinière Ewadri Agroforestry Farm, située en bordure des camps, a pu reboiser une partie des terres du camp de Rino. Lorsque je me suis lancée dans l'agroforesterie, j'ai dû passer 150 entretiens avant de décrocher un contrat, se remémore-t-elle. C'était en 2017. Les premiers réfugiés qui sont arrivés ont tout récolté, explique-t-elle, en faisant référence à la première vague migratoire venue du Sud-Soudan en 2014. Les seconds étaient fauchés, car il n'y avait plus rien. C'est à ce moment que les associations ont intensifié leurs opérations. On a planté des acacias, des gmelinas, qui sont des arbres à croissance rapide, pour avoir du bois en 2 ou 3 mois. La solution est ensuite de ne récolter que les branches, car elles peuvent repousser en quelques jours. Pour les fruits, on fait pousser des mangues et des avocats. Les communautés locales, tout comme les réfugiés, ne savaient pas que leurs activités posaient problème. Quand j'ai démarré, j'ai demandé au chef des camps de m'y rendre pour faire de la prévention. Les gens ont ensuite compris les gestes, c'était juste un manque d'information. C'est à nous, professionnels, de transmettre le savoir. Depuis son arrivée au camp d'Impévi, Lily Leyoba plante des arbres grâce aux moyens fournis par le Centre international pour la recherche en agroforesterie, ICRAF, un organisme qui collabore depuis 2018 avec les populations réfugiées. À mon sens, les propriétaires terriens avaient bien trop coupé leur terrain, estime Lily. D'une part, pour permettre l'établissement des parcelles d'accueil, mais aussi car ils avaient besoin d'argent, explique la Sud-Soudanaise. La situation tend à changer depuis peu, car les populations ont compris l'importance de planter pour remplacer. Un point de vue que partage John Ossidi, le directeur de terrain d'un centre agroforestier d'ICRAF au camp de Rino. Les habitants des camps sont très intéressés par les plantations, car on les forme puis on leur fournit les semis, dit-il. Ça leur permet de gérer leur terrain et de gagner de l'argent. La reforestation a un fort impact économique dans ces communautés. Financée par des fonds privés et des fondations, comme la Banque africaine de développement, l'ICRAF réalise régulièrement des enquêtes parmi les communautés pour identifier les lieux à reboiser. On se concentre sur les zones très dégradées ou sur celles sans arbres, ajoute M. Ossidi. Chaque bouture coûte en moyenne 75 cents américains à produire. Il faut ensuite ajouter les salaires et les charges. On plante chaque année lors de la saison humide qui s'étale de fin mars à mai, mais avec les aléas des changements climatiques, on s'adapte comme on peut. Parfois, ça a aussi des conséquences sur la survie des arbres. À l'instar d'autres entreprises présentes dans la région, l'ICRAF augmente chaque année son rendement. Avec 118 000 arbres plantés en 2020 et 127 000 en 2021, l'objectif est d'atteindre 200 000 plantations cette année. La NFA, quant à elle, a pour objectif que 24 % du territoire ougandais soit recouvert d'arbres d'ici 2040. L'organisme a bon espoir que ces futures parcelles boisées rendent la vie meilleure aux populations réfugiées. Ce reportage a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international. C'était « Le bois, or brun des populations réfugiées d'Ouganda », un texte de Roméo Mocafico, paru le 18 avril 2022 dans le magazine Pivot.
Quoi faire avec ces 5 aliments qu'on oublie toujours et qui finissent dans le compost? Un texte de Billy F., paru le 1er septembre 2021 dans le magazine Urbania. On nous le répète depuis qu'on est tout petit. Il ne faut pas gaspiller sa nourriture. Mais il semble que le message ne soit pas passé. Bien qu'une partie de ce gaspillage soit inévitable, près du tiers de ces produits pourrait être consommé. C'est aussi un enjeu écologique. Tous ces aliments jetés gaspillent un quart de l'eau utilisée en agriculture et d'en disposer génère énormément de gaz à effet de serre et de méthane. Tout le monde a son rôle à jouer pour remédier à cette situation, à commencer par le gaspillage alimentaire à la maison. Chaque Français jette en moyenne 29 kilos de nourriture par an. Enquête réalisée en ligne par skikit.com sur l'ensemble du territoire français via les réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. 1104 personnes de 18 ans et plus ont répondu durant la période du 1er juillet au 28 juillet 2021. Un vrai gâchis dont on prend de plus en plus conscience. D'après une étude réalisée par la start-up Skikit, parmi les éléments les plus souvent jetés, les fruits et légumes arrivent en première position, 72,1%. Vient en seconde place les restes, 45,2%, puis le pain en troisième position, 29,9%. On retrouve ensuite la viande, le poisson, 13,7%, les produits laitiers, 14,8%, et enfin les œufs, 5,8%. Des légumes aux grains, en passant par les produits transformés, il y a presque toujours moyen de donner une deuxième vie à nos courses. Voici donc un petit aide-mémoire pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Herbes et laitues. D'expérience personnelle et après consultation rapide avec des collègues, les laitues et les herbes ont tendance à être des stars du compost, vu leur tendance à flétrir ou décolorer plutôt rapidement. Pourtant, ces aliments sont assez faciles à réutiliser en cuisine. C'est aussi un bon prétexte pour souligner l'importance du compostage et d'une bonne gestion de ces déchets alimentaires. Vous voyez votre laitue achetée la semaine dernière qui semble prête à rendre l'âme? Elle se décomposera au bout de quelques semaines si vous la mettez au compost. Si vous la jetez aux poubelles, ça peut lui prendre jusqu'à 25 ans. Première chose à savoir, c'est que votre laitue n'est peut-être pas tout à fait morte. Donnez-lui un bain d'eau glacée et il y a de bonnes chances qu'elle retrouve sa verve d'antan. Par contre, si elle n'est pas ressuscitée, on peut encore faire plein de belles choses avec. Coupez-la en gros morceaux et faites-la revenir avec de l'huile d'olive, de l'ail et les assaisonnements de votre choix pour accompagner vos plats. Émincée, elle ajoute un peu de couleur et de goût à votre recette de pâte préférée ou passez-la au mélangeur pour l'ajouter à votre mélange de crêpes salées. Personnellement, je garde toutes sortes d'herbes dans un sac refermable au congélateur. Quand j'en ai suffisamment, je transforme mon medley d'herbes, auquel j'ajoute aussi mes fans de carottes et de radis, en pesto qui se retrouve un peu partout dans mes plats. dans des pâtes évidemment, mais aussi comme marinade pour des pièces de viande ou encore mélangée à un peu de mayonnaise pour faire une trempette à crudité. Vous pouvez aussi utiliser vos vieilles herbes pour donner du goût à vos soupes et bouillons. Les pains. Ah, le pain, géniteur de notre civilisation. Il y a une très grande chance qu'il y en ait en ce moment dans votre cuisine, sous une forme ou une autre, que ce soit une miche, du pain de mie ou une baguette. Et ça se peut qu'il soit en train de s'assécher et qu'il dépérisse sur votre comptoir. Mais cet incontournable de notre alimentation n'a aucune raison de se retrouver au compost tant qu'il ne présente pas de signes de moisissure. Depuis au moins le 5e siècle, les gens sensés partout dans le monde ont comme tradition de tremper dans un mélange d'œufs et de crème le pain qui semblait être perdu pour en faire un délicieux déjeuner. Appelez votre mère pour lui demander sa recette de pain perdu, elle sera contente. Déchirez de gros morceaux d'un pain rassis dans un bol et ajoutez-y des tomates pour faire une excellente panzanella, parfaite pour un pique-nique. Nous sommes en train de lire un texte de Billy F., paru le 1er septembre 2021 dans le magazine Urbania, intitulé « Quoi faire avec ces 5 aliments qu'on oublie toujours et qui finissent dans le compost? » Le lait. Les produits laitiers n'ont plus autant la cote qu'avant. Par contre, le lait reste essentiel à bon nombre de recettes et son prix relativement bas fait que, par habitude, on continue à en acheter régulièrement. Et souvent en format plus gros que ce dont on a besoin. Cela fait du lait un des aliments les plus gaspillés. Vous avez du lait qui menace de tourner d'une minute à l'autre dans votre frigo? C'est le bon moment de faire une belle grosse sauce mornay qui se congèle bien et vous permettra de vous faire un mac and cheese sous peu. Si vous vous sentez un tantinet plus aventureux, vous pourriez en profiter pour tenter de faire une ricotta maison. C'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez et vous pouvez l'aromatiser comme vous voulez. Suffit de faire chauffer votre lait, d'y ajouter un acide sous forme de vinaigre ou de citron et d'égoutter. Ça peut pas être beaucoup plus simple que ça. Mettez-en dans vos pâtes, sur des morceaux de pain ou faites-en une salade avec les légumes ou des fruits du moment. Les bananes. Un vrai classique, cette banane. Il y a encore quelques années, lorsqu'elle mûrissait trop, les gens avaient tendance à la jeter. Mais aujourd'hui, tout le monde sait qu'on peut garder nos bananes noircies dans le congélateur pour les utiliser quand on veut faire un pain aux bananes et des pancakes vegan. C'est bon, le pain aux bananes, mais je commence à m'en lasser. Donc, quand j'ai des bananes qui semblent assez noires pour en faire un pain, je les laisse tranquilles encore un peu. Et je les utilise pour réaliser la très addictive recette de banana cream pie de la célèbre pâtissière du Momofuku, Christina Tosi. Si vous n'êtes pas trop tarte à la crème, vous pourriez aussi pimper votre pain aux bananes en réalisant un gâteau banane caramel au beurre salé. Un dessert très simple et parfait pour terminer le repas lors d'une nuit chaude d'été ou autre. Les légumes flétris. Bien entendu, je ne peux pas vous faire une liste complète de toutes les façons d'utiliser des légumes qui ont été oubliés un peu trop longtemps. Ça prendrait un livre au complet, et il y en a d'excellents. Par contre, je peux vous donner des astuces pour profiter pleinement de leur potentiel. L'essentiel, c'est de comprendre les aliments qu'on a, de penser à toutes les préparations qu'on connaît, et de voir comment ils peuvent s'y intégrer. Vous avez acheté de jolis concombres, mais ils ramollissent dans le frigo? Faites-les faire saumurer pour avoir des cornichons maison. Vous ne savez pas trop quoi faire avec toutes les courges qui poussent dans votre jardin? Faites-les rôtir et congelez-les pour les intégrer dans vos recettes, comme des muffins à la courge et aux pépites de chocolat. Si vous voulez pousser votre cheminement anti-gaspi encore plus loin, vous pouvez même recycler vos épluchures de légumes en chips, que vous pouvez par la suite ajouter sur tous vos plats pour ajouter de la texture et de la couleur. Mesures préventives anti-gaspillage. Le meilleur moyen de ne pas gaspiller ses aliments, c'est d'avoir un rapport avec la personne qui les fait pousser ou qui nous les vend. C'est très dur de jeter des courgettes qui perdent vie quand on a eu une conversation avec son maraîcher sur les difficultés de la saison. Dès que l'on comprend la valeur humaine derrière un produit, on va toujours trouver un moyen de le revaloriser. Et n'hésitez pas à lui demander des recettes. Personne d'autre n'aura autant de savoir-faire paysan. Surtout, faites-vous plaisir. Ce sont des aliments que vous auriez autrement gaspillés, alors autant tenter quelque chose de nouveau, quitte à ce que le résultat soit moyen. Et par pitié, si vous devez absolument jeter des aliments pour une raison ou une autre, utilisez votre bac à compost. Pensez à votre laitue qui traînera encore au dépotoir dans 20 ans. C'était « Quoi faire avec ces 5 aliments qu'on oublie toujours et qui finissent dans le compost? » un texte de Billy F. paru le 1er septembre 2021 dans le magazine Urbania.
Le duo inflation et mondialisation pourrait causer des famines. Un texte de Francis Hébert Bernier, paru le 25 mai 2022 dans le magazine Pivot. La flambée du prix des aliments pourrait entraîner des conséquences catastrophiques pour des pays en voie de développement qui ont les mains liées par des traités commerciaux internationaux. L'inflation qui s'installe mondialement risque de pousser des dizaines de millions de personnes dans l'insécurité alimentaire, annonçait récemment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La crise qui s'annonce expose les failles d'un système alimentaire globalisé qui profite aux pays occidentaux et vulnérabilise les pays en voie de développement. L'inflation entraînera des conséquences néfastes sur les consommateurs, consommatrices du monde entier, mais elle risque d'être particulièrement difficile à surmonter dans les pays en voie de développement, prédit la professeure d'économie de l'Université du Massachusetts et conseillère à l'ONU sur le multilatéralisme, Jayati Ghosh. À moins d'un changement de cap, ceux et celles qui nourrissent l'Occident pourraient se retrouver en situation de famine, prévient-elle. Les pays riches accaparent la nourriture. Les pays les plus pauvres risquent effectivement de rencontrer des difficultés pour assurer une alimentation de qualité à leurs citoyens-citoyennes, explique le titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie politique de l'alimentation et du bien-être, Sébastien Rioux. Il rappelle que lors de la dernière crise alimentaire, de nombreux pays ont laissé tomber le libre-échange et adopté une certaine forme de protectionnisme pour s'assurer une sécurité alimentaire. À l'heure actuelle, de nombreux pays en voie de développement ont converti une grande part de leurs terres agricoles pour produire des produits destinés aux marchés mondiaux comme le café, les fleurs et les fruits exotiques, explique-t-il. Cela les rend particulièrement vulnérables en période de crise, car les pays occidentaux consomment moins de ces produits de luxe. Au même moment, la concurrence pour les produits alimentaires de base devient de plus en plus féroce, explique Sébastien Rioux. Des traités qui cultivent l'injustice. Cette situation est une conséquence directe des traités de libre-échange qui ont été conclus, entre autres, par le Canada depuis la fin des années 1980, rappelle-t-il. Selon lui, ces traités visent explicitement à empêcher les signataires de protéger une production agricole intérieure destinée au marché local. Une grande hypocrisie, décrit Jayati Ghosh, puisque la plupart des pays occidentaux protègent leur agriculture en utilisant des moyens détournés. C'est d'ailleurs ce que fait le Canada avec la gestion de l'offre, précise Sébastien Rioux. Il souligne également le rôle joué par les États-Unis dans la mise en place et le maintien du système actuel. Ils sont une véritable superpuissance agricole, produisant environ 84 % de ce qu'ils consomment, mais leur système est dépendant des exportations, explique-t-il. Selon lui, les États-Unis auraient donc pesé de tout leur poids dans les dernières années pour s'assurer que d'autres pays dépendent de leurs exportations. Les plus pauvres paient la facture. Tandis que la crise inflationniste profite aux grands distributeurs du marché de l'alimentation, les petits producteurs, petites productrices et les travailleurs, travailleuses agricoles des pays en voie de développement sont particulièrement touchés par la crise, rappelle Jayati Ghosh. Leurs profits n'augmentent pas même si les consommateurs paient plus cher pour s'alimenter. En revanche, leurs dépenses augmentent avec la hausse du prix des semences, du carburant et des engrais, déplore-t-elle. Une situation qui mènera plusieurs familles à réduire la variété, la quantité et la qualité des aliments qu'ils ingèrent, explique Sébastien Rioux. Les gens ne peuvent pas négocier leur loyer, leur compte d'électricité ou de téléphone. Tout ce qu'il leur reste, c'est de couper dans la nourriture, observe-t-il. Cette situation nous affecte tous, mais elle est, selon lui, exacerbée chez les populations les plus pauvres parce qu'elles consacrent déjà une plus grande part de leurs revenus à l'alimentation. La goutte qui pourrait faire déborder le vase. La crise inflationniste tombe mal puisque la plupart des pays en voie de développement peinent déjà à régler de nombreux problèmes, observe Jayati Ghosh. La plupart de ces pays ont dû faire des emprunts colossaux pour combattre la pandémie, pendant que leurs revenus, souvent liés aux exportations et au tourisme, ont tout simplement disparu, rappelle-t-elle. Si bien que dans de nombreux pays, tous les acteurs de la société, autant publics que privés, se retrouvent avec un problème de dette. Or, celle-ci risque d'exploser en raison des hausses généralisées de taux d'intérêt, pointe Mme Ghosh. Si la crise alimentaire se matérialise dans toute son ampleur, cela pourrait mener à des revirements politiques, prédit Sébastien Rioux. Il rappelle que la dernière crise alimentaire avait mené à des émeutes et des soulèvements dans une quarantaine de pays et à quelques changements de régime. Selon lui, la suite des choses dépendra de plusieurs facteurs, dont la qualité des récoltes automnales et la suite de la guerre en Ukraine. Ce qui est toutefois certain, c'est que les gouvernements vont faire tout en leur pouvoir pour tenter d'endiguer la crise parce qu'aucun système ne peut survivre longtemps si les gens ne peuvent pas manger à leur faim, prédit-il. C'était « Le duo inflation et mondialisation pourrait causer des famines », un texte de Francis Hébert Bernier, paru le 25 mai 2022 dans le magazine Pivot.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Jocelyne Langevin et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.